یہ عہد تو تلاوت کے بعد دہرایا جاتا ہے, لیکن لگتا ہے بارش کی وجہ سے آپ کی انتظامیہ گھبرا گئی تھی اور پروگرام نہیں لکھا ہوا تھا. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a annoncé qu'il était prophète, il a été ridiculisé. Et lorsque les koufars ont constaté que les gens sont en train de l'accepter et que les faibles parmi eux et que leurs esclaves sont en train de lui prêter allégeance et sont en train d'abandonner leurs idoles pour adorer un seul Dieu, les koufars ont commencé à faire des plans pour arrêter sa mission. Et ainsi, ils ont commencé à persécuter à l'extrême ses suivants. Parmi les suivants du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et les hommes et les femmes ont été persécutés par les koufars. L'histoire de l'islam nous rapporte l'incident d'une personne qui a été écartelée entre deux chameaux. La personne qui a subi cette fin atroce était une femme. En dépit d'avoir vu sa fin atroce, cette femme a respecté son engagement et n'a pas été déloyale envers l'unicité de Dieu. Elle a respecté son engagement et s'est laissée écarteler. Elle n'a pas été déloyale envers son Seigneur. Ensuite, il y a d'autres atrocités qui ont été commises à la Mecque. La famille de Yassir a été torturée. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est passé à côté d'eux lorsqu'ils ont été torturés par les koufars. Les membres de la famille de Yassir ont été ligotés et ils ont été tabassés cruellement. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré ô famille de Yassir, soyez patients. Allah vous a bâti une maison au paradis. Yassir a succombé suite à ces atrocités. Et Hadrat Samia, son épouse, était dans un état déplorable. Elle était presque inconsciente. C'est dans cet état qu'Abu Jahl l'a tuée d'un coup de lance. Ces deux personnes ont quitté ce bas monde avec ce message du plaisir de Dieu qu'ils ont reçu par le truchement du saint prophète Mohammed B. lui. Et ils ont reçu le message de la vie éternelle dans l'au-delà. Aujourd'hui, 1400 ans après, on se souvient de leurs sacrifices et leurs sacrifices sont mentionnés partout. Leurs sacrifices sont en train de briller. Les femmes sont considérées comme faibles. Elles sont faibles de nature, mais l'islam a donné naissance à de telles femmes qui ont fait des sacrifices comme des hommes. Elles ont laissé des exemples pour l'établissement du tawhid de l'unicité de Dieu. Et ainsi, ils ont laissé des exemples qui sont là pour renforcer notre foi. Au cours de la période mécoise, les musulmans et le saint prophète ont été bannis dans la vallée d'Abu Talib. Les membres de la famille du saint prophète, le saint prophète et ses suivants ont été bannis pendant 2 ans et demi et ils ont consenti à ces sacrifices et pendant 2 ans et demi, ils ont subi cette famine. Les enfants étaient affamés et leur mère était certainement anxieuse en les voyant dans cet état. En voyant leur enfant au bord de la mort, elle était certainement triste. Mais elles avaient connu le trésor de l'unicité de Dieu, elles avaient connu le Dieu vivant et elles ne pouvaient être déloyales envers lui. Si les hommes étaient persévérants et patients, les femmes n'étaient pas en reste. Et les hommes et les femmes étaient animés de cet esprit de sacrifice, un esprit de sacrifice qu'a insufflé l'islam en les hommes et en les femmes. Après avoir reçu la permission de Dieu, les musulmans sont partis à Médine et a débuté une nouvelle ère pour l'islam. Mais les ennemis de l'islam ont poursuivi les musulmans et ils ont décidé de s'attaquer à Médine et aux musulmans. C'est là que Dieu a donné la permission aux musulmans de se défendre. Dieu leur a donné la permission de se défendre et de répondre avec force à leur atrocité. Car si l'on n'arrête pas ces atrocités, ces exactions, cela va s'amplifier et les gens de toutes les foi en seront affectés. Et ces criminels vont tout le temps user de force pour arrêter le progrès de la foi et de l'unicité de Dieu. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu la permission de se défendre contre ceux qui sont venus les attaquer. La première bataille a eu lieu à Badr et à chaque fois qu'ils ont eu l'occasion, l'ennemi a allumé le feu de la guerre contre les musulmans. Les musulmans étaient peu en nombre. Leurs armes étaient tout à fait insignifiantes. mais en dépit de cela, ils se sont défendus contre l'ennemi. Et au cours de ces batailles, dans lesquelles doivent participer les hommes uniquement, les femmes ont joué aussi un grand rôle. Ces femmes braves se sont acquittées de leurs devoirs. Parmi les tâches accomplies par les femmes au cours de ces batailles, il y avait le fait qu'elles devaient s'occuper des blessés, de donner à boire aux blessés et aux soldats musulmans. Le fait de panser les blessures des blessés, le fait de porter hors du champ de bataille les blessés et les morts, et le fait de ramasser aussi les flèches. Les femmes sont donc considérées comme faibles, mais elles se sont maîtrisées, elles ont maîtrisé leur faiblesse et ont accompli cette tâche. Sans cela, il aurait été impossible pour elles d'accomplir ces tâches. J'ai choisi un incident à vous raconter où l'on rapporte qu'une femme a aussi pris l'épée pour se défendre. Les femmes avaient aussi le devoir de préparer la nourriture, d'aider les hommes à creuser les tombes pour les mortiers. Elle était là aussi pour encourager l'armée et les soldats. Mais elles ne se sont pas comportées comme les femmes koufars qui ont chanté des chansons. Elles étaient là pour leur insuffler ce sens de l'honneur. Elles étaient là face à la mort pour accomplir cette tâche. Dans l'histoire de l'islam, les femmes ont un grand statut. La guerre a été imposée et en retour, les femmes ont joué leur rôle. Mais tel n'était pas le but de leur vie. C'était les suivantes du saint prophète Mohammed paix soit sur lui qui à l'époque ont donné de bons conseils. Ces femmes croyantes ont aussi accompli de grandes choses. Elles se sont acquittées de leurs devoirs envers Dieu. Elles se sont occupées de leurs enfants pour leur faire comprendre qu'ils doivent se sacrifier pour la cause de la foi et qu'ils doivent être prêts à se sacrifier corps et âme pour la cause de la foi. Donc, elles n'étaient pas braves en raison de leur ignorance, en raison du fait que la guerre leur a été imposée. Elles avaient compris leurs devoirs et se sont acquittées de leurs devoirs. Elles savaient très bien qu'elles avaient un devoir à accomplir. Aujourd'hui, avec la venue du Messie promis à l'Islam, il n'y aura plus de djihad par l'épée. Certainement, le Messie premier l'Islam a annoncé qu'il y aura le djihad par la plume. Et aujourd'hui, il y a aussi les nouvelles technologies, de nouveaux moyens par le truchement desquels on s'attaque à l'Islam, par le truchement desquels on s'attaque à l'Ahmadiyya, par le truchement desquels on s'attaque aussi au Saint-Coran et à la personne du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui. Et on s'attaque aussi à la personne de Dieu. Aujourd'hui, ces attaques sont en plus grand nombre. Face à ces attaques, les hommes ont un rôle à jouer. Les femmes aussi doivent user de toute leur capacité pour répondre à ces attaques. N'utilisez pas l'Internet, Facebook et les autres sites web pour passer du temps pour vous amuser. Ressentez cette douleur au fond de vous, à l'instar de ces femmes de la première génération qui ont compris leurs responsabilités et qui ont donné leur vie pour atteindre cet objectif. Aujourd'hui, c'est le moment de donner sa vie. Usez de toutes vos capacités pour réduire à néant l'attaque de l'ennemi. Les jeunes filles et les femmes doivent se présenter pour cette tâche. Je vais citer quelques exemples à propos de ces femmes qui ont participé dans le djihad. Je vais présenter ces exemples afin de vous faire comprendre comment ces femmes ont fait preuve de constance face à ces attaques. Je vous ai aussi présenté l'exemple de ceux qui ont donné leur vie pour la cause de l'unicité de Dieu. Il y a aussi l'exemple de ces femmes qui ont donné leur vie et qui ont usé de leur capacité pour protéger le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui ont donné leur vie pour cette cause. Voyons comment ces femmes se sont comportés pour défendre le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et comment elles étaient là comme des rocs afin de défendre le saint prophète. Je vais citer en premier l'exemple de Umm Amara. Umm Amara était parmi ces premières femmes chanceuses de Médine qui étaient parties à la Mecque pour prêter allégeance au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Elle était parmi le deuxième groupe de ceux qui ont prêté allégeance à Uqba. Dans ce deuxième groupe, il y avait deux femmes. Il y avait Umm Amara et Umm Bani Asma bin Amr bin Adi. Umm Amara rapporte que lorsque le saint prophète a accepté l'allégeance des hommes, son mari a dit au saint prophète qu'il y avait aussi deux femmes. Le saint prophète leur a dit que il accepte leur allégeance sur les mêmes conditions. Le saint prophète ne posait pas sa main sur la main des femmes, mais en tout cas leur allégeance a été acceptée. Parmi les exploits accomplis par Umm Amara, l'on constate qu'au cours de ces batailles, elle s'était occupée des blessés, mais elle avait aussi pris l'épée pour se défendre, quelque chose qui a ébahi le monde. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré que là où je regardais, lorsque je me tournais à droite ou à gauche, je voyais Umm Amara qui se défendait et qui se battait. Umm Amara rapporte qu'au cours de la bataille d'Uhud, la situation des musulmans était critique en raison de leur empressement. Et les musulmans étaient en danger. Elle déclare que lui, son mari et ses deux fils se sont approchés du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam afin de repousser les attaques qu'on avait lancées contre lui. Elle déclare que nous étions en train de repousser ces attaques au cours de ce moment critique parce que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui était la cible de ces attaques. Elle dit que j'avais pris dans une main une épée et un bouclier. Elle ajoute aussi que s'il n'y avait pas eu des cavaliers, tous auraient péri sur le champ de bataille. Il y a un ennemi qui m'a attaqué un ennemi qui était à cheval, mais j'ai pu répondre à son attaque en me défendant avec mon bouclier et j'ai donné un coup d'épée sur la croupe de son cheval. Le cheval était blessé et le cavalier est tombé de son cheval. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à son fils Abdullah et lui a dit: Abdullah, va aider ta mère. Et son fils est venu et ils ont expédié ce cavalier. Son fils rapporte qu'au cours de la bataille d'Uhud, lorsqu'il y a eu une attaque violente et lorsque les mujahidines se sont éparpillés, lui et sa mère se sont approchés du saint prophète et ont arrêté toutes ces attaques. Et Umm Amara elle-même fut grièvement blessée à l'épaule. Elle saignait abondamment. Le saint prophète a demandé à son fils de panser les blessures de sa mère. Et elle a aussi dit que ta famille est très honorable. Qu'Allah fasse pleuvoir sur vous ses grâces et ses bénédictions. Et il a aussi prié: ô Allah, fasse qu'il soit en ma compagnie au paradis. En entendant ces prières, les membres de cette famille étaient certainement très contents. Et avec plus d'ardeur, ils ont défendu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Umm Amara a constaté que son fils était blessé. Il a pansé ses blessures et ensuite il a dit à son fils: pars et attaque l'ennemi. Ne te repose pas en raison de cette blessure. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a loué sa bravoure. Umm Amara était à côté du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, l'épée à la main. Lorsque celui qui attaquait son fils est venu de nouveau, le saint prophète lui a dit: voilà celui qui a blessé ton fils. Umm Amara l'a attaqué, lui a coupé sa jambe et elle est tombée sur le sol et les autres lui ont sauté dessus. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a loué de nouveau. Hadrat Umar radio talanhu déclare que j'ai entendu le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire qu'au cours de la bataille d'Uhud, lorsque j'ai regardé autour de moi, je voyais Umm Amara qui se battait et se défendait. Umm Amara avait reçu 12 blessures et la blessure à l'épaule était très profonde et cette blessure a pris un an pour guérir. Suite à cette blessure très grave, elle est tombée sans connaissance. Mais lorsqu'elle a repris connaissance, la première question qu'elle a posée était: comment va le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il ne s'est pas soucié de son fils ou de son mari. Lorsqu'on lui a dit que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et saint Souf, elle en a remercié Dieu. Umm Amara radiallahu anha a participé de la bataille de Hunayn, à la conquête de la Mecque et dans la bataille contre Musaylimah Kazab. Elle a participé aussi dans la bataille de Yamama. Au cours de cette bataille, elle a perdu une main. et elle a aussi reçu 11 blessures au cours de cette bataille, et son fils est tombé en martyr au cours de cette bataille. Elle était aussi à Hudaybiyah et elle a aussi participé dans ce serment qu'on appelle Bait Rizwan. Dieu a déclaré à ce sujet que Dieu l'a informé que tous ceux qui lui ont prêté allégeance à Hudaybiyah iront au paradis. Elle déclare que nous avions accompagné le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, pour l'Umra, pour le pèlerinage mineur. Mais les koufars de la Mecque nous ont arrêtés. Les Quraychites ne voulaient pas que nous entrions à la Mecque. Et nous avons envoyé Uthman comme notre ambassadeur. Et quand il n'est pas retourné, nous avions cru qu'il a été tué. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est assis sous un arbre et a demandé aux musulmans de faire un serment. Il leur a aussi informé que c'est Dieu qui lui en a donné l'ordre. Et toute personne qui avait une arme avec elle l'a pris dans la main. Ils étaient partis pour l'Umra. C'est pour cette raison que beaucoup d'entre eux n'avaient pas d'armes. Umme Amara a dit qu'elle avait un bâton et un couteau. Elle a pris ces deux objets dans sa main afin de répondre aux attaques de l'ennemi. Au cours de la bataille de Hunayn, elle a aussi prouvé sa bravoure. Elle déclare qu'au cours de cette bataille, une personne est entrée sur le champ de bataille à chameau. Elle a profité d'une occasion pour faire tomber le chameau. Et ainsi, il a frappé le cavalier qui n'a pas pu se relever. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé son fils comme ambassadeur à Musaylima Kazab, mais celui-ci enfreint les règles de la diplomatie, l'a ligoté à un pilier et après l'avoir interrogé, ils l'ont tué. Lorsque Umme Amara a reçu cette nouvelle, elle a fait preuve d'une grande patience. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prié pour Umme Amara. Lorsque Musaylima a été tué, elle a aussi perdu son bras, mais elle ne s'en s'est pas souciée. Au cours du califat de Omar, un jour on a apporté à Omar un drap de très bonne qualité. La personne qui a porté ce cadeau a dit que l'on devait offrir ce cadeau à Safiya, qui était la bru du calife. Mais Omar a déclaré qu'on va donner ce cadeau à une dame qui est meilleure que Safiya. Il a déclaré que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a loué cette dame. Et après cela, on a offert ce drap à Umme Amara. Elle ne s'est pas contentée de participer à des batailles. À Médine, elle a aussi prêché le message de l'islam et elle a joué un grand rôle à ce sujet. Umme Amara a laissé son exemple de bravoure. Dans des situations des plus périlleuses, elle s'est battue pour défendre le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, alors qu'il n'y avait que quelques musulmans pour protéger le saint prophète. Lui, son mari et ses fils ont joué un très grand rôle. pour défendre le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Pour les hommes, on cite Hadrat Talha, qui a arrêté par sa main les flèches qui allaient frapper le visage du saint prophète Mohammed Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a fait sans broncher et il a empêché ces flèches d'atteindre le visage du saint prophète Mohammed Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. Et Umm Amara a représenté les femmes pour protéger le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle a compris que son but ce jour-là était de protéger le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Elle était prête à perdre son fils, son mari ou sa vie. Mais elle n'était pas prête à laisser souffrir le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et elle l'a certainement protégé. Aujourd'hui, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a quittés. Mais sa personnalité est toujours là, sa personnalité est vivante et l'islam est toujours vivant. Aujourd'hui, il incombe à toute femme d'être à l'exemple de Umm Amara et de défendre la personne du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et de répondre à toute attaque contre l'islam. J'ai cité l'exemple de Umm Amara, mais au cours de la vie du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et même après, il y a eu de telles dames qui ont fait des sacrifices pour la cause de la foi. Au cours de la bataille de Qasiya, les femmes ont joué aussi un grand rôle. Aujourd'hui, l'islam est attaqué de toutes parts. Et malheureusement, ces soi-disant musulmans qui ont rejeté l'imam de l'époque sont en train d'attiser ces attaques. Nous n'avons pas besoin d'un seul Umm Amara, mais nous avons besoin de milliers de Umm Amara, des personnes qui vont devoir défendre l'islam et le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Les jeunes savent mieux utiliser les nouvelles technologies. Je m'adresse aux jeunes et je leur dis de se présenter et de participer dans ce djihad. Mettez de côté vos désirs personnels. Les jeunes filles Waqifat-e-Naw doivent s'acquitter de leurs devoirs et les autres doivent s'acquitter de leurs devoirs de musulmans et d'Ahmadis. Augmentez votre connaissance à propos de la religion, répandez cette connaissance, mettez de côté vos désirs personnels. Ces objections de l'ennemi sont les mêmes. Ils n'ont fait que répéter les mêmes objections en changeant peut-être les paroles. Et le Messie premier, l'Islam, a déjà répondu à toutes ces attaques. Nos jeunes filles et nos femmes doivent lire les livres du Messie premier, l'Islam. Celles qui ne lisent pas l'ourdou doivent profiter des traductions. Et à part cela, elles doivent augmenter leurs connaissances et doivent répondre à ces attaques qui ont été lancées contre le saint prophète Mohammed Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. Et elles doivent être comme des épées brandies contre l'ennemi. Je vais citer l'exemple de Umm Salma qui était présente lorsque le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a demandé aux musulmans de lui prêter allégeance à Hudaybiyah lorsqu'on croyait que Hadrat Uthman a été tué. Et le terme Ridwan signifie que ceux qui étaient présents ont eu le plaisir de Dieu, car ce jour-là, ils avaient pris un nouvel engagement pour la cause de Dieu. Parmi les qualités de Umm Salma, il est dit qu'elle était très patiente, qu'elle avait une très grande foi, qu'elle avait aussi une grande confiance en Dieu, qu'elle était imbue de taqwa, qu'elle avait aussi une grande crainte de Dieu. Elle était intelligente et sage. Elle était constante et brave. Elle était reconnue pour son éloquence. Et elle était reconnue parmi les femmes pour être une très bonne oratrice. Elle a participé dans plusieurs batailles et avec un bâton, elle a tué 9 personnes. Elle était très éloquente et elle savait influencer les gens par ses paroles. Elle s'est présentée au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il est dit qu'elle a demandé au saint prophète Mohammed paix soit sur lui à propos du statut des femmes. Elle a dit que je me présente à vous en tant que représentante des femmes. Elle lui a aussi dit que Dieu vous a envoyé comme prophète pour les hommes et pour les femmes. Nous sommes des femmes et nous sommes en train de vous suivre. Nous vous acceptons. Nous sommes liés à notre maison. Nous devons nous occuper de nos maisons et de nos époux et de nos enfants. Voilà nos devoirs à nous. Les hommes, quant à eux, ont le droit de partir pour les prières en congrégation, pour les prières de Juma, et ils participent dans les djihad. Et en raison de ces actes de vertu, ils ont plus de mérite. Lorsqu'ils partent pour le djihad, nous protégeons leurs biens. Ô prophète, est-ce que nous aurons les mêmes récompenses? Le style de cette dame a plu au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et il a dit à ses compagnons, est-ce qu'il y a quelqu'une qui pourra mieux représenter les femmes? Les compagnons ont dit que nous n'avons pas entendu de meilleur discours que celui-là. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui s'est adressé à elle et a dit, dis aux femmes que tu représentes qu'ils doivent bien traiter leur mari, qu'ils doivent avoir en tête leur plaisir et doivent marcher sur leurs pas. Et si elles agissent ainsi, elles auront de grandes récompenses. Elles auront les mêmes récompenses que leur mari. Ces hommes qui sont concernés ici sont ceux qui marchent sur les voies de la taqwa, ceux qui donnent prééminence au plaisir de Dieu, ceux qui s'acquittent de leurs devoirs envers leurs épouses et leurs enfants. En entendant ce message, Hazrat Asma est retourné et a donné ce message aux femmes. Voilà comment doivent se comporter les femmes musulmanes. Elles doivent accomplir leurs devoirs en toute sincérité. Elles doivent s'acquitter de leurs devoirs. Elles doivent faire de leur mieux pour l'éducation religieuse et morale de leurs enfants. Les jeunes filles doivent augmenter leur connaissance de la religion. Elles ne doivent pas se contenter de suivre la mode. Il y a aussi ces jeunes filles, ces jeunes femmes qui cherchent à plaire à Dieu. Elles essayent d'être parmi celles dont les actions ont plu à Dieu. Il y a aussi Umme Warqa bint Abdullah, qui était une dame de Médine, qui avait mémorisé le Saint-Coran, qui avait une très grande connaissance de la foi, qui était imbue d'une grande sagesse, qui avait aussi progressé dans la taqwa. Et elle passait la plupart de ses nuits dans l'adoration de Dieu. Elle savait lire le Saint-Coran et elle méditait aussi beaucoup sur les préceptes du Saint-Coran. Il est dit à propos de Umm Warqa que lorsque le saint prophète a annoncé que les musulmans doivent partir pour la bataille d'Uhud, elle s'est présentée au saint prophète et lui a dit « Ô prophète d'Allah, laissez-moi partir pour la bataille. Je vais m'occuper des blessés et de ceux qui ont besoin d'eau. Je veux qu'Allah m'accorde le statut de martyr. » En voyant cela, le saint prophète Mohammed paix sur soi lui a déclaré « Reste chez toi et Dieu va te donner le statut de martyr à la maison. » En entendant ce message, le saint prophète Mohammed paix sur soi lui est retourné chez elle tout content. Et de temps en temps, le saint prophète disait à ses compagnons en disant « Nous allons partir de la maison de la martyr qui est vivante. » Mais cette parole du saint prophète s'est accomplie plus tard. Umm Warqa avait deux esclaves à qui elle avait dit qu'elle allait les libérer après son décès. Mais ces deux personnes se sont dit qu'on ne sait pas quand elle va mourir et quand ils auront leur liberté. Un jour, ils ont profité de la nuit pour la tuer. Et ainsi, elle est tombée en martyr dans sa maison, tout comme l'avait dit le saint prophète Mohammed paix sur lui. Parmi ces dames, il y a aussi Fatma bint al-Khattab, qui a guidé son frère vers l'islam. Elle a souffert entre les mains de son frère. Elle a subi des blessures de la main de son frère. Mais elle ne s'est pas écartée de l'islam. Et en fin de compte, son frère a dû baisser les bras et a écouté le message du Saint-Coran et a embrassé l'islam. Il y a d'innombrables incidents en cours de la vie de ses compagnons et de ses femmes du Saint-Prophète Mohammed paix sur lui, qui avait un très grand amour pour le Saint-Prophète. Elle essayait de se surpasser les unes les autres dans le domaine de l'adoration et ont participé aussi dans le djihad. Elles ont aussi fait des sacrifices financiers pour la cause de l'islam. Elles ont sacrifié leurs enfants et leurs maris et ont fait preuve d'une grande patience. Elles ont participé dans l'établir. Elles ont augmenté leurs connaissances et ont partagé cette connaissance. Le saint prophète a dit à propos de Hadrat Aïcha qu'elle connaît la moitié de la foi. Dans tous les domaines, les femmes musulmanes ont joué un grand rôle et ces femmes musulmanes ont insufflé cet amour pour la foi dans le cœur de leurs enfants qui étaient prêts à faire tout sacrifice. Aujourd'hui, les femmes parmi les akhirines doivent laisser les mêmes exemples. C'est là qu'elles pourront respecter leurs engagements. C'est là qu'elles pourront dire qu'elles ont assumé leurs responsabilités. Ces femmes qui ont été guidées directement par le Messie promis l'Islam ont été des exemples dans ces domaines. Nous devons avoir ces exemples en tête et nous devons les servir pour atteindre notre objectif. Plus qu'auparavant, nous allons devoir faire des efforts en ce sens. Par la grâce d'Allah, cet esprit est toujours vivant parmi nous, mais il est important de faire des rappels de temps en temps. Afin que la majorité d'entre nous soit de ceux qui font ces sacrifices. Afin que la majorité d'entre nous soit de ceux qui marchent sur les voies de la taqwa. Attention que nos descendants ne soient charriés par les futilités de ce bas monde et qu'ils oublient ces sacrifices et qu'ils oublient cet esprit. C'est pour cette raison qu'on a institué l'organisation de la Lajna Emaïla, afin que les femmes puissent aussi faire leur réforme spirituelle, afin qu'elles puissent aussi se réformer moralement, afin qu'elles puissent établir un lien vivant avec Dieu. Afin qu'elles soient prêtes à faire tout sacrifice pour la cause de l'unicité de Dieu, et afin qu'elles fassent ces sacrifices pour cette cause, afin qu'elles puissent aussi insuffler cet esprit en leurs enfants. En raison de la situation périlleuse au Pakistan, ces sentiments sont vivants parmi nous. Mais ces sentiments ne doivent pas être temporaires parmi ceux qui se trouvent à l'extérieur. Ce ne sont pas uniquement les Ahmadis au Pakistan qui sont en difficulté, ceux qui sont au Bangladesh, en Indonésie ou dans des pays arabes sont en train de souffrir, mais leur foi s'en retrouve renforcée. Plus qu'auparavant, ils sont fidèles et loyaux. Ces personnes ont établi un lien ferme avec la foi, mais les autres, ceux qui vivent ailleurs, doivent en faire de même. Elles doivent progresser dans leur fidélité, dans leur loyauté. Auparavant, j'ai dit cela, que je reçois beaucoup de lettres du Pakistan en raison de la situation difficile. Les femmes n'ont pas le droit de partir à la mosquée et les activités de la Lajna Emaïla sont très limitées. Ces femmes m'ont écrit et m'ont dit « La vie d'une femme a-t-elle plus de valeur que la vie d'un homme ? La femme n'a-t-elle pas le droit de tomber à martyr ? Donnez-nous la liberté d'organiser nos activités et nous n'avons pas peur de perdre notre vie. » Elles ont dit que peut-être que les hommes sont plus importants, mais en tout cas, les femmes aussi sont très importantes. Les femmes doivent s'occuper de l'éducation des nouvelles générations. Je m'adresse à ces femmes et je leur dis qu'elles doivent aussi faire preuve de sagesse. L'honneur d'une femme, sa dignité sont très importantes et les hommes doivent protéger leur dignité. C'est pour cette raison que nous sommes en train de prendre ces mesures de précaution. Mais au moment venu, les femmes aussi doivent être braves. Elles vont devoir être à l'exemple des musulmanes de la première génération. Et nous avons vu de tels exemples au cours de notre vie. Je reçois des lettres de la part de ces dames qui disent que nous serons des khawlas, que nous voulons être des Oum et Amara. Qu'Allah fasse que ces sentiments soient vivants pour toujours. Mais l'on doit de toute façon prendre des mesures de précaution. On va devoir respecter ces mesures. Vous qui êtes ici, vous avez la liberté de pratiquer votre foi. Usez de cette liberté afin que chacune d'entre vous comprenne qu'aujourd'hui, elle est responsable de la protection de l'islam et du Saint-Prophète et qu'elle doit faire de son mieux dans ce domaine, qu'elle doit s'acquitter de ses responsabilités, qu'elle progresse dans sa connaissance et dans sa spiritualité et qu'elle ne baisse pas les bras tant qu'elle ne fait pas flotter le drapeau de l'islam dans le monde. Que Allah nous en donne la possibilité à nous tous. Amin.